Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Vaine demeure la quête d'un motif à la lente descente vers l'autodestruction d'un être cher phagocyté par un cancer psychique. Culpabilité, responsabilité, le parent qui perd son enfant ne se sait jamais tout à fait innocent. On voudrait croire aux vertus de la parole et ignorer que la raison perd toujours face à la passion, comme le rationnel à l'irrationnel. On aimerait tant que l'amour soit capable de réparer les âmes ou de guérir d'un quelconque mal de vivre. « Pourquoi as-tu fait ça ?» hurle Patrick de Merlaire à l'adresse de sa fille qui volontairement a définitivement dit adieu à ce monde sans un mot. Dans sa lettre à la seconde manquante, parue chez De Mince en 2023, il délivre une poignante leçon de vie pour arracher au néant l'être emporté. Personne n'est coupable, personne n'est innocent, tout le monde est comptable. Comptable d'un drame qui dépasse, pèse, blesse et questionne. Sans doute faut-il renoncer à comprendre. Bonjour Patrick de Merlaire.
Et bonjour.
Philippe. Merci d'être à nouveau avec Parole d'auteur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet totalement différent de celui qui avait été l'objet de notre émission précédente ensemble, puisque nous avions parlé de l'instituteur d'Albert Camus.
Louis Germain.
Aujourd'hui, c'est un sujet autobiographique, un sujet plus intime, plus personnel que nous allons aborder, puisqu'il s'agit de votre seconde fille, de la perte de votre seconde fille, qui a eu lieu, si je me souviens bien, il y a une vingtaine d'années. Je salue nos chers auditeurs d'être pour leur fidélité. Patrick de Merlaire, je voudrais savoir, en première question, si... Qu'est-ce qui est le plus salvateur, c'est l'écriture ou le temps, ou bien ni l'un ni l'autre?
Ah, je crois que ce sont plutôt les deux. D'abord le temps, puisqu'il m'a fallu 20 ans pour mettre des phrases, des mots sur cette histoire. À l'époque, donc en 2002, j'avais écrit à Annie Ernaux pour lui parler de ma fille qui était décédée. J'avais déjà échangé quelques lettres avec elle et elle m'avait répondu quelque chose de presque prémonitoire dont je n'avais pas fait cas à l'époque, que je peux relire puisque c'est très court. Cher Patrick de Merlaire, les mots sont si pauvres, irréels dans le drame que vous avez traversé, peut-être vous reviendront-ils plus tard, comme une libération, même s'ils ne sont plus les mêmes, chargés de leur impuissance à sauver la vie réelle, avec toute la sympathie au sens profond du terme. Et effectivement, il m'a fallu tout ce temps de maturité peut-être, et puis de recul, pour ressortir tous les documents dont je disposais, les photos, les petits mots qu'elle m'envoyait pour la fête des pères, pour mon anniversaire, pour Noël, enfin ce qui se fait entre les enfants et leurs parents. Et j'ai bénéficié bien entendu de tous ces petits mots qui étaient manuscrits. J'avais donc des traces. Moi-même à l'époque, tout au cours de sa maladie, j'avais noté énormément de choses. J'avais écrit sur un cahier ce que je ressentais. Et je lui avais écrit aussi à elle, hein, et elle m'avait répondu. Donc c'est à la fois le temps qui a servi à apaiser, on va dire, les tourments. Et le fait d'écrire, même si au moment où j'ai écrit, j'avais pas cet objectif de thérapeutique, quoi, hein, puisque j'avais déjà travaillé là-dessus plutôt. Non, si j'ai écrit ce livre, c'est en quelque sorte pour redonner vie à ma fille, ma seconde fille, qui avait donc disparu, qui avait eu 27 ans de vie, avec de nombreuses activités, enfin bon, nous en reparlerons probablement, pour que son passage sur Terre laisse une trace.
Voilà, c'est cette notion de trace, effectivement, sur laquelle vous insistez. Alors, avant de revenir en détail sur le centre du sujet, j'ai décidé de vous inviter, je dirais pas par hasard, mais parce que j'ai capté, en vous croisant ou en n'étant pas très loin de vous dans certaines réunions, j'ai capté une phrase qui m'a interpellé, où vous disiez en substance, ce livre, c'est peut-être la raison qui m'a fait écrire, sous-entendu, tout ce que j'ai déjà écrit. Alors, je rappelle au passage que vous êtes auteur de romans, de biographies, puisqu'on on a évoqué la biographie de Louis Germain, que vous êtes auteur aussi de nouvelles, comme Le Belge égaré en Ariège, par exemple. Donc, est-ce que la finalité de l'écriture, pour vous, est issue de cet événement, de ce que vous avez vécu, ou est-ce que c'est parce qu'il y en avait besoin, et peut-être aussi parce qu'on s'aperçoit dans le livre que vous êtes dans une culture familiale, une culture épistolaire, et vous-même dans une culture où vous notez les choses, je dirais spontanément, et sur une longue durée.
Oui. Alors, c'est une lectrice qui m'a... Une amie lectrice. J'ai reçu beaucoup de retours après la lecture. Et l'une de mes lectrices me dit « Ah, mais je sais que tu as commencé d'écrire juste pour écrire ce livre, un jour. » Alors, je n'adhère pas à cette analyse. En revanche, si je n'avais pas écrit ces autres livres, si je n'avais pas une expérience de l'écriture, j'aurais certainement pas pu faire de cette histoire une œuvre littéraire. Parce que mon objectif, c'était quand même non seulement de raconter l'histoire, de ressusciter, entre guillemets, Mathilde, c'était aussi de créer une œuvre lisible par le public et qui pouvait peut-être leur apporter au moins un témoignage, mais peut-être des réponses à certaines questions.
Voilà. Vous aviez un souci de dire ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé dans la famille. Il faut absolument témoigner peut-être pour faire entrevoir des solutions ou donner de l'espoir à des gens qui vivent les situations similaires.
Oui, alors, hélas, comme la fin de ce livre est tragique, il ne donne que peu d'espoir. Et tant et si bien que j'ai reçu deux témoignages de personnes qui sont confrontées à ce problème de l'anorexie et qui me disent « Ouh là là, votre livre ne m'encourage pas, enfin ne me console pas, au contraire. » On n'a pas de solution face à cette maladie. Enfin, il y a des méthodes de traitement qui sont proposées par les médecins, les psychiatres, qui parfois réussissent, qui parfois ne réussissent pas.
Donc on est effectivement un petit peu dans l'aléa. Au cours de la lecture, vous laissez entendre que peut-être votre fille, sur laquelle on va revenir plus en détail, était, je dirais, victime d'autre chose en plus que l'anorexie.
Oui, alors ça, c'est une psychiatre, une des dernières qui l'a soignée, d'ailleurs, toute dernière, c'est quelques semaines avant le décès. Elle m'a dit, mais votre fille, elle a quelque chose d'autre que l'anorexie. Mais elle n'a pas nommé le problème. Et moi, je ne le nomme pas non plus. Voilà, d'abord, je ne suis pas médecin. Et puis, il y a un film, je ne sais plus le titre, Un homme parfait, c'est ça, un truc comme ça,
Oui.
voilà. Où on voit Russell Crowe, qui est donc l'acteur schizophrène, quoi. Hein. Et parfois je me dis, mais c'était ça, quoi. Ouais.
Et donc, forcément, il n'y aura jamais une réponse précise et définitive. Il y aura toujours un doute, toujours une interrogation.
Absolument. On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Mais au cours de l'écriture, c'est arrivé au cours de l'écriture, hein, c'est peut-être ce qui m'a apporté le plus dans ce travail. C'est, j'ai compris que peu à peu, les portes, les échappatoires se refermaient, et donc tout ce qu'elle faisait, tout ce qui était autour d'elle, la conduisait à une impasse,
C'est ça.
et que le seul moyen pour elle d'en sortir, c'était de mourir.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de dire, vous avez dit, il fallait que j'en fasse une, pas seulement un témoignage, mais une production littéraire. Vous auriez pu prendre la voix d'un roman, mais vous ne l'avez pas fait. Pour quelle raison?
C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, je le dis, je crois, au début du livre, où j'avais envisagé la chose, mais je ne pouvais pas faire de ma fille un personnage de roman. Ma fille, c'était quelqu'un en chair et en os qui a existé réellement, donc je ne pouvais faire que une sorte de biographie. À la fois, comme vous le disiez au tout début, à la fois c'est son histoire, mais c'est aussi la mienne, en fait, hein. Tout au moins, c'est celle d'un père de famille confronté au problème d'une famille, quatre filles. Donc Mathilde est donc la seconde. La vie de cette seconde fille est complètement liée à son entourage, donc à sa mère, à son père, à ses sœurs, et donc toutes sont impliquées quelque part, en tout moins concernées, témoins puissants aussi, hein, je pense que surtout sa sœur aînée a certainement ressenti cette impuissance insupportable, quoi, hein. C'est insupportable de savoir qu'on peut rien faire, voilà.
Et alors, il y a on est face à cette impuissance, toute la famille, finalement. Et puis vous décidez donc d'écrire pour les raisons que vous venez de nous expliquer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, entre guillemets, d'impudique à exposer ces problématiques d'une famille qui vont au-delà d'une problématique, hein, ce drame familial. Et je voulais savoir si vos autres filles, les autres membres de votre famille avaient réagi à la publication de ce livre. Est-ce que vous aviez parlé du projet de ce livre avec eux auparavant?
Oui, absolument. Le premier jet, comme on dit, hein, je l'avais édité et je leur avais donné aux trois sœurs pour qu'elles apportent aussi leur témoignage, soit qu'elles me disent ben là non, tu t'es trompé, ou voilà. L'une de mes trois filles n'a pas voulu le lire, voilà, parce que. Probablement n'avait-elle pas envie de revenir sur cette époque, quoi, et sur cette histoire. Mais les deux autres m'ont apporté leur témoignage et parfois essentiel, parfois essentiel. Et donc, depuis qu'il est publié, évidemment, je leur ai donné, et il n'y a aucune réaction négative. Hein, ni, voilà. Je pense qu'elles comprennent ma démarche et que quelque part, oui, je les fais réexister un peu, quoi.
Patrick Demerler, je vous propose Avec le temps.
Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit.
D'auteur. Philippe Gilbert.
Avec le temps de Léo Ferré. Patrick Demerler, comme vous le disiez au début, le temps est quand même finalement, malgré l'épaisseur et la lourdeur du drame, un facteur positif.
Oui, bien sûr. Comme le dit si bien Léo Ferré, avec le temps, tout s'évanouit. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais disons que la douleur s'estompe, et puis on vit d'autres choses, on continue de vivre, et on peut être heureux.
Et alors, c'est vraiment là où le roman, enfin le roman, je sais plus si on peut dire que c'est pas vraiment un roman.
C'est un récit.
C'est un récit. Il concerne tout le monde, je dirais même les gens qui ont la chance de ne jamais avoir été concernés par un drame aussi lourd. Parce que vous donnez tout de même une leçon de vie. Et cette leçon de vie, on la sent du début jusqu'à la fin, parce que malgré les événements, malgré les rebondissements, et malgré le fait que de mois en mois ou d'année en année, petit à petit, vous commencez à comprendre que ça risque d'être difficile et que la guérison s'éloigne, vous gardez le cap, et pour garder le cap, Vous analysez le plus lucidement possible la situation en vous reposant finalement sur des écrits que vous avez faits, sur des choses, sur des échanges que vous avez eus avec votre fille et principalement des échanges épistolaires. Donc pour que les futurs lecteurs, nos auditeurs d'aujourd'hui comprennent bien, est-ce que vous pouvez nous décrire, nous présenter Mathilde ?
Oui. Parce que jusque-là, nous n'avons parlé que de douleur, en fait. Mais Mathilde était une enfant extrêmement joyeuse et brillante en classe dès les premières classes. Elle faisait la joie de ses maîtres, de ses copines. et de ses parents. Je disais à mon épouse, ah mais des enfants comme ça, on peut en avoir 12, hein, c'est pas un problème. Hein, et ceci jusqu'à l'âge de 13 ans, 13 ans et demi. Et 13 ans et demi, c'est juste la moitié de sa vie. C'est ça qui est terrible. Donc on peut dire que la vie de Mathilde s'est partagée en deux, une période joyeuse, merveilleuse, et puis une période où la maladie est venue briser cette joie de vivre. Alors bon, c'était pas tous les jours, hein, bien entendu. Et puis il y a eu des périodes où elle était mieux, et puis elle a toujours eu l'espoir de guérir. Ce qui était constant tout au long de sa vie, c'est la réussite scolaire. Voilà, ça, c'est la réussite scolaire, depuis la maternelle jusqu'au concours de l'internat, puisque elle est allée jusqu'en troisième année d'internat. Elle a toujours réussi brillamment, première tout le temps. Alors, on pourrait croire que c'est une force, mais non, finalement, c'est une fragilité. Parce que quelqu'un qui a toujours réussi, qui a toujours été en tête, qui a toujours connu que la réussite, ne supporte pas l'échec. Et c'est ce qui s'est passé chez elle. Une fois dans la pratique, elle a vécu un échec qui n'est pas attesté, mais bon, probablement réel. Et cet échec l'a conduit à s'effondrer totalement, quoi, totalement. Parce que jusqu'à 2 ans, oui, jusqu'à l'âge de 25 ans, malgré son anorexie, elle vivait malgré tout, hein, elle vivait. Difficilement, enfin, elle a toujours l'angoisse de l'échec, même quand elle était... Enfin, nous étions sûrs qu'elle allait réussir, quoi, hein, voilà. Hein. Mais non, elle avait toujours... Et une fois réussi, ben, ça ne compte plus. C'est la prochaine étape. Il faut, voilà, c'est comme devoir toujours monter un escalier ou une échelle sans fin, toujours monter. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc... on avait, enfin, c'était quelqu'un que tout le monde aimait, hein. C'est parce qu'elle était agréable, elle était la plupart du temps joyeuse, serviable surtout, beaucoup, très serviable. Elle avait plein d'amis. Ouais.
Et alors, il y a eu, vous dites, vous faites allusion, à un moment donné, il y a eu un échec. Dans le roman, on comprend qu'il y a un point de basculement.
Ouais.
Où vous rendez compte que y a quelque chose qui s'est vraiment passé, et il y a quelque chose qui est devenu, je dirais, encore plus sérieux.
Oui.
Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez essayer de... Vous allez beaucoup parler avec elle. Vous dites que vous croyez aux vertus de la parole.
Oui.
Vous décrivez dans de nombreuses pages le temps que vous lui consacriez le soir, notamment, pour discuter. Mmh. Et est-ce que tous ces échanges ont été des choses qui ont permis de la faire avancer, ou est-ce que vous avez eu l'impression que ça pouvait faire avancer les choses?
C'était bien mon idée, enfin, mon objectif, de discuter avec elle, essayer de lui montrer le bon côté de la vie, parce que elle voyait que le mauvais côté de la vie, hein. Enfin, je suppose. Et presque tous les soirs, pendant plusieurs années, hein, j'ai discuté avec elle. J'ai toujours pensé que c'était vraiment, fallait que je le fasse, c'était utile, ça lui faisait du bien. D'ailleurs, elle aimait bien ces moments. Mais finalement, ça n'a pas servi beaucoup, quoi. Hein. J'ai l'impression que c'était aussi inutile.
C'est l'impression que vous avez eue après coup, si on peut dire. Et vous écrivez notamment « Je ne savais pas encore que la raison perd toujours face à la passion, comme le rationnel face à l'irrationnel. »
Oui, ça c'est... Je le constate tous les jours.
Hein. Oui, c'est vraiment le constat d'impuissance.
On peut appliquer ça à tout. Hein. Même en ce moment, ce que nous vivons ces jours-ci, je pense que la passion l'emporte sur la raison.
Tout à fait. Alors cette maladie, hélas, se développe. C'est un petit peu comme une gangrène. Vous parlez de cancer psychique.
Dans... Je ne me souvenais pas avoir utilisé cette expression.
Ça m'a saisi. En disant que on essaye d'aller de l'avant, et puis comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ça s'améliore, il y a des rechutes, ce sont un peu les montagnes russes, et face à une situation de ce type là le père que vous étiez se trouve un petit peu désemparé, on le serait à moins. Et vous nous faites vivre le fait que Mathilde grandit, Mathilde fait des études, Mathilde rencontre un compagnon, et que là, vous avez des relations qui se distendent un petit peu.
Oui, mais ça, c'est un peu normal. Les enfants s'éloignent de leurs parents, surtout quand ils sont adultes, hein, puisque... Je ne connais rien de sa vie amoureuse jusqu'à ce qu'elle nous présente ce garçon qui était quelqu'un de plus âgé qu'elle et avec lequel évidemment au début c'était le grand amour, hein. Et je crois que lui avait la prétention aussi peut-être de la guérir par l'amour. Qui, comme vous l'aviez dit en préambule, n'est pas... Ça ne se passe pas comme ça. En ce moment, je suis en train de lire Martin Eden de Jack London, son chef-d'œuvre, je pense. Et Martin Eden essaie de conquérir Ruth, donc une femme qui n'est pas du tout de sa condition, parce que lui est d'une basse extraction, il est un peu rustre, même vulgaire, alors qu'elle vient de la haute bourgeoisie, etc. Et donc lui s'instruit pour pouvoir arriver à ça, et elle veut par son amour, elle veut le changer, le convertir, lui donner des bases, des bonnes manières, enfin, etc. Bon, je sais bien que ça n'aboutira pas, parce que l'amour ne guérit pas de maladies. Hein. On le saurait, je pense, hein, on le saurait. Mais on peut toujours avoir cette illusion, et j'avais certainement aussi cette illusion lorsqu'elle était adolescente, en discutant beaucoup avec elle. Donc, pour moi, c'était bien entendu une façon de l'aimer. C'était ma façon de l'aimer, de l'écouter, lui parler.
Et donc vous expliquez bien effectivement qu'en tant que père, vis-à-vis des enfants qui grandissent, qui deviennent des adultes, la distance n'est pas la même, et qu'on a peut-être aussi un devoir de tenir la distance par rapport à la vie de ses propres enfants. Mais néanmoins... vous sentez que la communication qui pourrait tout de même continuer à s'établir n'est plus de la même qualité. Vous écrivez « Impossible de te parler de ton avenir comme si le futur n'était plus un temps conjugable ». Vous rajoutez « Je n'ai pas compris que tu comptais remonter la trame de ta vie, actionner la pédale à contre-courant. Y a-t-il des mots assez justes ?» Donc, à partir d'un certain moment, on constate... cette difficulté, on se pose les questions, on a envie d'agir et on voit qu'on ne peut pas agir.
Exactement. Et cette période-là où j'ai senti que, de toute façon, tout ce que je pouvais dire n'avait plus aucune influence sur elle, et ni de consolation d'ailleurs, C'est lorsqu'elle était accompagnée, justement. Hein. Je pense que elle était effectivement accompagnée, mais toutes ses sœurs sont unanimes là-dessus, mal accompagnées. Hein. Et donc, elle subissait peut-être l'influence de ce garçon, de cet homme, qui, bien entendu, cherchait à l'éloigner de son père. C'est souvent un peu comme ça. C'est les bases de la manipulation, c'est comme ça, éloigner la famille, éloigner les proches, de manière à pouvoir dominer la personne.
Alors ce phénomène d'éloignement, on le ressent dans le livre à trois niveaux, à trois occasions. Le premier niveau, c'est bon, elle-même qui se tient un petit peu à distance. Ensuite, il y a son compagnon qui est en opposition vraiment avec vous. Et il y a un troisième personnage qui est le compagnon de votre ex-épouse qui va entrer dans la danse, si j'ose parler ainsi. Ce qui fait que vous allez, en plus de la dureté de la situation, être confronté à une opposition intrafamiliale qui va avoir un petit peu l'objectif de tout vous mettre sur les épaules.
Oui, il faut bien trouver un responsable. Ouais. Hein. C'est une réaction un peu normale. Effectivement, je me suis trouvé confronté avec une opposition enfin, ferme, à la fois de la maman, de son compagnon à l'époque, et du compagnon de Mathilde. Je ne sais pas trop quoi en dire d'autre que ce qui est dans le livre. Hein, voilà. Ouais, c'était déplacé, outrancier, et, finalement peu important.
Alors, j'aborde ce sujet parce que je l'ai ressenti important. Dans la mesure où ça, toute cette opposition orientée sur vous ne vous a pas fait dévier dans votre analyse de la situation, dans ce que vous pensez qui était bon pour votre fille ou qui avait été bon pour votre fille, et dans la manière dont vous aviez agi. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas laissé influencé et vous n'êtes pas, ces gens n'ont pas réussi à vous abattre et à vous miner. Finalement, vous avez pu rester lucide. C'est pour ça que j'en parle, parce que dans ces situations, il faut quand même avoir une certaine force de caractère.
Oui, enfin, je vous remercie. Ouais, mais oui, je pense que dans l'opposition, enfin je le dis quelque part, dans l'opposition, soit on s'écrase, hein, soit on se bat, soit on fuit. Donc une fois, je me suis trouvé confronté à devoir fuir pour peut-être garder mon intégrité et puis ma personnalité, enfin mon... Oui. C'est difficile. Là, vous me posez une question très difficile, en fait. Hein.
J'en ai conscience, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est fort dans le livre, et c'est quelque chose qui laisse à réfléchir et à penser au lecteur. C'est pour ça que je me suis permis de vous poser la question, mais je ne suis pas persuadé non plus qu'il y ait une réponse. Il y a vous relatez une manière de réagir.
Oui, je suis d'autant plus surpris que c'est la première fois que quelqu'un me pose cette question par rapport à l'opposition, l'attitude que j'ai eue, la ligne droite que je me suis sur laquelle je suis resté. Souvent, on me questionne sur d'autres thèmes. Celui-là, et je suis un peu embarrassé pour y répondre, je dois dire. Ou alors je vais me jeter des fleurs, donc c'est pas, j'ai pas trop envie. Hein, voilà.
Oui, oui, mais je veux dire, à cette question, il n'y a peut-être pas de réponse à apporter. Simplement, je souhaitais la poser pour attirer l'attention des futurs lecteurs, parce que je pense que c'est un des côtés qui peut concerner beaucoup de monde. Par rapport à des situations difficiles. Bon, les lecteurs jugeront.
Oui, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai trois autres filles. Hein. Donc, il fallait bien. Enfin, il me semble que j'avais aussi un rôle à jouer, enfin, à continuer de jouer, le rôle du père. Donc, peut-être ai-je préservé mon intégrité de père, plus que ma propre personnalité. C'est ça. J'étais quand même responsable d'elle aussi. Hein.
Voilà. Et ce que nous n'avons pas dit aussi, c'est que la vie a fait que vous avez une de vos autres filles qui a été victime d'anorexie.
Également, oui.
Également, voilà. Ouais. Effectivement.
Mais voilà, pour elle, elle a été guérie et aujourd'hui, elle va très bien.
Patrick de Merler, je vous propose d'écouter les pêcheurs de perles.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours avec Patrick de Merler pour son livre Lettre à la seconde manquante. Nous venons d'écouter un très joli morceau, Patrick. Pourquoi l'avez-vous choisi ?
Ah ben, j'ai toujours aimé beaucoup ce morceau qui est tiré des Pêcheurs de Perles de Bizet, un opéra qui n'est pas donné beaucoup, mais cet air est très très connu. La première fois que je l'ai entendu, c'était un ténor qui a disparu il y a longtemps, qui s'appelait Georges Till, un ténor français, et cet air m'a toujours ému très fortement, oui vraiment, et... Je l'ai en plusieurs versions. J'ai en plusieurs versions d'Alania et puis celle-ci de José Calleja, un des meilleurs ténors encore en activité, on va dire.
D'accord. Alors, revenons à votre livre. Donc, nous avons bien compris la situation de Mathilde, la situation familiale. Et le caractère et l'évolution quasiment irréversible de la maladie qui va la conduire à un geste désespéré. Dans ce cas de figure, le pire est donc arrivé. Et dans votre livre, vous avez une réflexion très, j'allais dire très objective et je dirais presque froide, entre guillemets, parce que extrêmement raisonnée, sur les notions de culpabilité et de responsabilité.
Oui.
Et cette réflexion vous vient, on le sent, effectivement, de la notion d'impuissance face à l'énormité. Alors, selon vous, quelle est la différence et le lien qu'il y a entre culpabilité et responsabilité ?
Ah, ben je pense que c'est plus facile d'échapper à la culpabilité qu'à la responsabilité. La responsabilité, ça ne s'efface pas. En revanche, la culpabilité, le sentiment de culpabilité, c'est un sentiment de culpabilité. La responsabilité, c'est un fait. Le sentiment de culpabilité, on peut, je pense, s'en guérir, on croit. Et donc, à mon avis, la responsabilité est plus forte. Se sentir responsable est plus fort que se sentir coupable, parce qu'on peut se sentir coupable sans l'être, ça n'a pas, ou ne pas se sentir coupable tout en l'étant. En fait, je trouve que la notion de culpabilité est assez floue finalement. Bien sûr que j'ai ressenti la culpabilité, hein, ça c'est évident. Mais aujourd'hui, souvent les gens pour me consoler, je sais pas, ils me disent mais t'es pas coupable, mais non, mais je ne me sens pas coupable, mais je me sens bien responsable en fait, voilà. Quelque part.
Voilà. Et alors vous avez des phrases très fortes qui sont à l'origine des conclusions que vous tirez, que vous nous expliquez sur ces notions de différence entre culpabilité et responsabilité. Vous écrivez « Qu'aurais-je pu faire ? M'avais-tu demandé de l'aide ? Aurais-je dû m'imposer ? Répliquais-je avec toi cette distance que mon père avait maintenue avec moi, son fils aîné, depuis mon jeune âge ?» Donc, il y a aussi le fait de dire que il y a peut-être aussi une reproduction d'attitude entre les générations.
Absolument.
Oui.
Ah, mais, j'y tiens absolument à cette répétition d'attitude. Je ne suis pas sûr que beaucoup de parents partagent le bon point de vue. Mais mon point de vue, c'est qu'un enfant doit se détacher de ses parents et le parent doit quelque part, comme mon père a fait avec moi, ne jamais influer sur ses choix. Et mon père n'a jamais influé sur mes choix, et il n'a jamais porté le moindre jugement sur mes choix, même quand ils étaient mauvais. Et ça, je le remercie pour ça. Je le remercie pour ça. Et je sais que, par exemple, mon frère n'est pas du tout d'accord avec moi là-dessus. Et je pense qu'à partir d'un certain âge, l'enfant, on n'est plus un enfant. Et donc, c'est sa vie. Et le fait que... Alors, je me pose cette question à ce moment-là, parce que je me dis, oui, peut-être j'aurais pas dû être comme ça, j'aurais dû m'imposer absolument, alors qu'elle avait 25 ans, 26 ans, enfin, quand même, c'est une femme, hein, c'est une adulte. Donc, jusqu'à quelle mesure les parents doivent... on me dit maintenant que les enfants que les jeunes gens sont adultes à 30 ans, mais bon, c'est pas vrai, pourquoi on reculerait? Vous savez qu'au Moyen-Âge, à 13 ans, on était adulte.
Voilà, donc
l'adolescence n'existait pas.
C'est une notion tout à fait relative. Et donc on sent bien que c'est ce raisonnement, c'est la nécessaire distance en fonction de l'âge Des enfants qui doivent guider l'attitude. Vous ajoutez, je mets en pratique avec tes sœurs que je n'ai pas à intervenir dans votre vie privée. Je peux me permettre un avis, rarement un conseil. Donc, vous confirmez effectivement cette distance qui est la bonne conduite, selon vous.
Oui, alors, je m'adresse pas aux enfants, je m'adresse aux enfants devenus adultes. Hein.
Tout à fait, on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que, en même temps, quand on a une personne qui est son enfant, qui exprime, vous le dites un moment dans le livre, elle était quand même, j'avais senti qu'elle était un peu redevenue comme une petite fille et que peut-être elle aurait eu besoin que je reprenne, je réajuste la distance vis-à-vis d'une petite fille, que je réajuste même le langage. Parce que vous l'avez aussi senti, ça.
Oui, hein? Je ne l'ai pas fait.
Oui, voilà. Et vous concluez dans cette attitude à avoir, et c'est ça, je trouve, la force de votre récit et la force de cette dure expérience de vie, c'est dire, il n'est pas question de culpabilité, il n'est pas vraiment question de responsabilité, et vous écrivez une très jolie phrase qui synthétise tout ça en disant, personne n'est coupable. Personne n'est innocent, nous sommes tous comptables.
Oui.
Et c'est vraiment ça qui résume bien les choses, qui résume bien le comportement que vous avez réussi à avoir. Et est-ce que vous ne pensez pas que ce raisonnement, c'est un raisonnement qui a été salvateur pour vous ?
Absolument, mais le fait d'être comptable m'a conduit à écrire ce livre. C'est bien un compte que je devais lui rendre. Et donc j'ai rendu compte de sa vie dans cet ouvrage. J'espère le plus fidèlement possible. Mon souci était d'être tout à fait honnête et avec moi-même, et avec elle, et avec ses sœurs, avec tout le monde, tout en masquant les identités. Hein. Je précise quand même pour les futurs lecteurs qu'ils n'essayent pas de faire des liens avec quelconque autre membre de ma famille, puisque tous les noms sont changés, les prénoms, puisqu'il n'y a aucun nom de famille, tous les prénoms sont changés, les médecins qui sont cités, bien entendu, c'est presque impossible de refaire le lien, enfin, je ne pense pas que ce soit possible. C'est vraiment le récit détaillé d'une relation entre un père et sa fille, d'abord heureuse, puis s'enfonçant lentement, inexorablement, dans cette maladie qu'est l'anorexie, jusqu'à, entre guillemets, attraper, enfin être contaminé par autre chose de plus grave. Et c'est cette chose plus grave qui l'a conduite, je pense, aux dernières extrémités, voilà, à mettre fin à ses jours. Je ne crois pas que ce soit l'anorexie qui ait mis fin à ses jours. Il y a des enfants qui meurent d'anorexie parce qu'ils ne mangent plus, quoi, hein. Ils meurent d'épuisement, etc. Là, ce n'était pas son cas, quand même.
Merci beaucoup Patrick Demerler. J'insiste auprès des auditeurs, ce récit est poignant, mais ce récit est une véritable leçon de vie. Nous n'avons pas eu le temps d'aborder le sujet de la bataille avec les thérapeutes, de l'isolement systématique de la famille par rapport au patient quand un thérapeute intervient, et dans le livre, au-delà de ce message de « nous sommes tous comptables », il y a aussi derrière cette notion de volonté de comprendre qui ne pourra jamais être satisfaite et qui est finalement centrale dans la difficulté de la chose, hein, si on peut dire. Bien, merci encore de votre visite.
Merci à vous. Si j'ai 2 minutes, je voudrais finir sur une note sympathique à l'égard du monde médical, puisqu'il se trouve, le hasard a voulu, mais y a-t-il des hasards, que peu de temps avant la publication de ce livre, je me rends compte que près de chez moi habite un des médecins qui m'avait reçu après le décès de Mathilde, un professeur qui était à l'époque doyen de la faculté de médecine et qui m'avait vraiment apporté un témoignage humain, quelqu'un vraiment... oui, qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé, alors que je l'avais rencontré qu'une heure peut-être. Hein, et il se trouve que cet homme habite près de chez moi et que depuis, je lui ai remis mon livre et qu'il en est complètement, complètement heureux, quoi.
Merci de ces témoignages. Merci à Christophe Aubry, toujours fidèle à la technique. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez réagir à cette émission et qu'elle est disponible sur toutes les plateformes numériques en podcast. Et je vous rappelle aussi que toutes les semaines, Parole d'auteur est diffusée le mercredi à 10h, suivie d'une première rediffusion le vendredi à 19h et d'une seconde le samedi à 17h. Au revoir à tous.